allô, allô, on change de pile pour voir si ça marche mieux. Nous sommes le 6 janvier. Séance ultime avec Daniel Ben Saïd.
Allô, 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 allô.
Sur la question sociale, parce qu'il me semble que lorsqu'on cherche à définir la politique, et si possible à l'autonomiser de l'économie, on essaye aussi de l'autonomiser, disons, du social. Or, il me semble chez toi que très souvent, le social vient en quelque sorte à la rescousse de la politique. Donc je voudrais savoir exactement quelle place tu accordes au social et à la politique, sachant que ce qui définit essentiellement, bon, à mes yeux, la politique, c'est le type de rapport ou de pression que l'on peut faire sur l'État, de façon justement à infléchir la politique des gouvernements. Et sachant également que la politique, sur ce point je suis d'accord avec Pierre-Noël Giraud, c'est avant tout se poser la question de quelle société on désire vivre, dans quelle société on désire vivre, et quel est surtout le degré d'inégalité sociale on est à même d'accepter ou de refuser. Donc par rapport à ces enjeux de la politique et de son rapport au social, comment tu définirais à la fois le social et le politique ?
Bon, ben, je crois qu'on retrouve presque, on retrouve un problème de méthode, c'est que l'agencement de ces constructions, hein, puisqu'on ne peut pas dire qu'il existe en soi comme ça une sphère du social, une sphère de la politique, une sphère de l'économie, mais que le découpage lui-même a une histoire, et tout le problème est comment aujourd'hui on peut concevoir un agencement différent à partir du moment où on se situe dans une optique, dans une critique de la société moderne, marchande ou capitaliste, dans un des traits d'avoir justement autonomisé au maximum l'économie et la reproduction économique des rapports sociaux, d'avoir donné un statut assez particulier à part à la politique. Bon, le problème, c'est l'articulation, et c'est là-dessus que se joue le débat. Alors, il y a une tentation qui a été de dissoudre, finalement, je crois que la formule qu'on trouve dans la tradition marxiste, pas forcément dans le marxisme vulgaire d'ailleurs, mais de Marx à Lénine, il faudrait le vérifier, qui est celle de la socialisation, du dépérissement de l'État et donc de la socialisation, c'est un projet d'absorption en réalité de la politique dans le social, et avec une conséquence, avec peut-être disons un rêve derrière, c'est de viser à une parfaite homogénéité démocratique du social et à la suppression de toute forme de délégation et représentation. Alors, c'est un projet qui est très très fort, pas seulement d'ailleurs dans la tradition marxiste, mais également libertaire à la fin du siècle, contre toute forme de dépossession bureaucratique, mais dont la réalisation a été exactement l'inverse, c'est-à-dire l'absorption ou la négation du social, de sa diversité, de sa conflictualité dans l'homogénéité du corps d'État. Au lieu de la socialisation, si on voulait le dire en une formule, on a eu une étatisation absolue dans le cas des dictatures bureaucratiques. Alors, face à ça, je crois qu'il faut on peut traiter que la question qu'à partir de la reprise d'un débat. Face à ça, il y a la tentation de réhabilitation de la politique, de réaffirmation de son autonomie, qui est très forte chez Hannah Arendt, je crois qu'on en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué, mais, et qui, à partir d'une lecture discutable d'Hannah Arendt, a nourri beaucoup le retour en force des philosophies politiques des 10-15 dernières années, mais dont la réponse a consisté en fait à affirmer l'autonomie de la politique ou à la réaffirmer au prix d'un refoulement de la question sociale. La question sociale, ce serait ce qui contaminerait, ce qui mettrait en branle dans la politique une logique totalitaire. Alors, je crois que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. L'autonomie de la politique est certainement nécessaire, y compris donc dans ses formes institutionnelles, mais on ne peut pas imaginer pouvoir la pousser aussi loin que de la déconnecter complètement ou de la couper de ses sources qui sont la diversité des intérêts tels qu'ils surgissent dans le conflit, l'antagonisme social. Alors tout le problème à partir de là, c'est... Et d'ailleurs, je crois que les exemples que prend Hannah Arendt dans l'essai sur la Révolution sont peu convaincants, parce qu'elle est en même temps attachée à une forme radicale de représentation. Donc elle cite les conseils ouvriers de Budapest, mais des formes qui sont toutes des formes de crise, où justement les revendications démocratiques, quand on passe en revue toutes ces formes de représentation politique qui tendent à une démocratie radicale, elles transgressent presque inévitablement la coupure du politique et du social. Elles prennent en charge à la fois un projet social et une exigence démocratique au sens politique institutionnel du terme. Donc je crois que c'est pas cette solution, on comprend à quelle inquiétude ou à quel traumatisme elle répond, mais elle n'en est pas une. Donc je crois que, de mon point de vue, en schématisant à l'extrême, le problème est celui-là, c'est-à-dire d'éviter les deux écueils de réduction du politique au social sous la forme d'un dépérissement décrété tout simplement de l'État, de l'institution et du droit. Ça, c'est une logique réellement totalitaire. Et d'autre part, disons une absorption ou une élimination du social pour au profit d'un jeu purement institutionnel qui ignore ou veut ignorer l'antagonisme et la contradiction à l'œuvre dans la lutte sociale. Alors, ça c'est facile, disons, écarter deux écueils, après comment remplir l'entre-deux et comment trouver une voie par rapport à ça. Je crois que là, ça nous amène effectivement au versant positif. Tu parlais de la politique comme pression sur l'État. Je crois que c'est une définition qui me paraît extrêmement réductrice. Ça veut dire qu'il y a une sorte de données intangibles, finalement, de l'autorité politique sur lesquelles on peut exercer des pressions, faire bouger à la marge, mais qui aurait son existence propre, alors qu'en réalité, tout le problème, c'est comment la politique se produit et surgit dans le va-et-vient entre son invention et son renouvellement, dont la source, si elle se tarit, je crois qu'on est justement dans l'extinction de la politique, mais dont la source, c'est la conflictualité sociale. Je ne vois pas d'où pourrait surgir d'ailleurs la politique. Quelle invention, c'est ce conflit qui produit des rapports, qui produit des formes de compromis, qui produit la pluralité et l'affrontement des représentations. Donc cette source doit être traitée comme telle, elle produit de la politique, elle ne se contente pas d'exprimer des intérêts sociaux, ça on l'a déjà dit. Maintenant, comment cette politique qui surgit du conflit trouve son langage, ses formes d'expression propres, en passant, en se transposant, je ne vais pas recourir à un vocabulaire trop psychanalytique, mais encore que, il y a une parenté de ça, j'ai dû déjà le signaler, de la condensation, la manière dont Lénine, par exemple, ne voit pas du tout la politique comme le prolongement mécanique direct du conflit social. Les fameux débats, par exemple, on s'y intéressait en notre temps en 68, mais sur le mouvement étudiant, ce n'est pas une représentation ouvriériste du social. C'est de dire, la conflictualité sociale s'exprime de manière spécifique en termes politiques. Autrement dit, il y a un champ politique qui a sa structure propre et qui déplace les contradictions, qui en reformule l'expression. Bon, et ça, une fois qu'on a dit ça, cette reformulation, elle passe par une navette, je dirais, institutionnelle entre le rôle du mouvement social, c'est-à-dire syndical et associatif, et les mécanismes de représentation. En réalité, tout le problème après porte sur ce problème de la représentation. La démocratie, le parlementarisme, la République, la démocratie directe, enfin, toutes choses sur lesquelles... en tout cas, personnellement, je serais aujourd'hui, et pour des raisons théoriques et pour des raisons d'expérience historique, beaucoup plus nuancé que je ne sais pas, disons que l'immédiat lendemain de 68. Alors, je pense qu'on reviendra évidemment là-dessus. L'autre aspect de la question, quand tu parles de la transposition, dans quelle société on désire vivre ? Et quel degré d'inégalité est tolérable un peu curieux, ça demanderait un temps de réflexion, parce que quel degré d'inégalité est tolérable? Je vois ce qui se profile effectivement derrière. Bon, on peut écarter l'idée d'une société parfaitement égalitaire. Soit. Mais on va reprendre la question, il faut un peu de temps pour y réfléchir.
Non, ce problème des inégalités, disons, et de son envers, ce qu'on pourrait appeler la passion égalitaire, est au cœur, disons, quand même du projet politique, puisque... si on définit à minima la politique comme l'art de pouvoir vivre ensemble, et si on ne fait pas l'économie, disons, des inégalités sociales, il est évident que une société s'équilibre, disons, à partir de la manière dont elle traite, disons, cette question des inégalités. Sinon, on entre, disons, dans des formes d'exclusion sociale, donc de non-intégration sociale, donc de sociétés parallèles, donc la société brésilienne, la société partout, disons, où coexistent, disons, des formes politiques où la question, disons, du pour tous ne peut même pas advenir. Donc, dans la mesure où on essaye de la poser, disons, cette question, soit sous la forme du régime assurantiel, soit sous la forme de la santé pour tous, soit sous la forme d'un service public, EDF ou d'autres, etc., soit sous la forme du projet de loi qui a été enterré, qui mettrait l'exclusion hors la loi, le projet de loi qui avait été présenté par Geneviève de Gaulle. Donc on voit bien que c'est quand même la question du degré d'inégalité que l'on est capable de supporter. Or, ce degré est totalement, disons, dépendant des expériences historiques des peuples. Ce qui fait qu'au Brésil, on supporte mieux les inégalités qu'ici. Mais peut-être qu'en France, dans 30 ans, si on s'habitue à vivre, disons, avec les ghettos, l'exclusion, nous... Donc voilà ce que je sous-entendais, disons, par rapport à cette question. Les inégalités sont largement dépendantes de l'expérience historique des peuples. Donc il y a un rapport, disons, entre l'histoire politique et la manière dont s'inscrivent les inégalités ou les projets d'égalité. Donc.
moindre inégalité.
Non, non, mais ça absolument. Bon, tu parles du Brésil, je connais bien, mais c'est une société où, au-delà là, de l'égalité politique, c'est une république, et en plus une république d'inspiration idéologique
conscienne,
affichée et revendiquée, qui a donné la fameuse guerre de la fin du monde ou du bout du monde de Canudos. Mais bon, oui, bien sûr, il y a une histoire, il y a une culture de l'égalité, disons-le comme voilà. Ça, qui est le fruit d'une histoire. Alors maintenant, cette égalité, là, aujourd'hui, on sait quel contenu lui donner. Alors, l'égalité politique qui se traduit par l'égalité des droits civiques, dont on a pu dire, en tout cas Marx a pu dire qu'elle était formelle, je crois qu'il y a souvent un quiproquo à partir de là. Pour lui, ce formel est tout à fait important, c'est-à-dire que c'est le maximum d'égalité à laquelle a pu atteindre une époque, et cette égalité est contredite et démentie par l'inégalité réelle, qui est l'inégalité sociale. Ça ne veut pas dire que l'égalité des droits civiques soit sans importance, bien au contraire. Le problème n'est pas de les nier ou de revenir en arrière, mais de les dépasser. Bon, ce problème fait un débat souvent confus, nourri de malentendus, et pour des raisons historiques très pratiques et très concrètes. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que, à l'évidence, partant de notre héritage, disons, égalitaire, qui est fait d'une série de luttes, d'expériences, d'histoires, la seule égalité civique et politique, non seulement apparaît contredite par une trop forte inégalité sociale, mais, puisqu'on n'est pas hors du temps, le creusement de cette inégalité, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire que, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, la dynamique dont on aurait pu croire à l'issue des Trente Glorieuses qu'elle était moins inégalitaire, que l'éventail d'inégalités se resserrait, aujourd'hui, je dis bien aussi bien à l'échelle internationale qu'on prenne les échelles de revenus par tête, les critères de conditions de vie, etc. C'est une logique, et à partir du moment où, évidemment, c'est à nouveau le marché qui emporte les digues et les correctifs, c'est une logique inégalitaire qui tend à se redévelopper. D'où on n'est même pas dans une situation de statu quo ou d'équilibre, on est dans une situation où l'acquis égalitaire ne sera pas seulement contredit, mais sera ce que tu évoquais comme une hypothèse, effectivement. Rien n'est acquis, et on peut imaginer d'ici 30 ans de vivre dans des sociétés où l'inégalité soit à nouveau reconnue, avec des formes d'exclusion ou de ghettoisation ou d'apartheid sous des formes diverses, scolaires et urbaines, qui sont parfaitement envisageables. Alors, par rapport à ça, bah oui, la défense... Alors, le premier rideau défensif, comme on dirait au football, c'est tout ce qui cristallise et donne corps à des pratiques égalitaires sur le plan social. Alors, le service public, ça a l'air tout bête, mais tu l'évoquais, le principe de la péréquation est un principe égalitaire fondamental. C'est-à-dire la péréquation tarifaire, le fait que... alors c'est peut-être pas l'équité au sens où c'est pas compensatoire et inversement proportionnel, enfin le fait qu'on paie le téléphone le même tarif ou le kilomètre de chemin de fer dans l'Ariège et à côté d'une centrale nucléaire ou d'une région à haute consommation, bon, c'est effectivement un dispositif égalitaire, de la même manière que l'instruction publique gratuite, même s'il y a des entorses ou des coups de canif dans la gratuité, de même que la santé et l'hôpital public. Bon, ça c'est une ligne de défense qui est aujourd'hui menacée, c'est pour ça qui est menacée, la menace étant pas lointaine, mais étant déjà à l'œuvre. Alors, après, quand je dis le premier rideau défensif, il y en a un second, c'est que tous ces filets de protection dont on peut convenir qu'ils jouent un rôle égalitaire restent encore limités par la source fondamentale en fait d'inégalité qui est la division du travail et le rôle de la division du travail. Alors là, je sais bien qu'on peut dire... nous voilà à nouveau dans le registre utopique. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis évidemment pas dans l'illusion d'une abolition décrétée, il faut rester là aussi cohérent par rapport à l'histoire de l'État, de la division du travail, mais finalement, par des tendances à l'œuvre, c'est-à-dire si on considère qu'il peut y avoir une tendance, que la productivité du travail augmente, qu'il peut y avoir une tendance à la baisse du temps de travail, qu'on tend, et certains en font un argument aujourd'hui pour dire l'emploi ne sera plus jamais comme avant, que le modèle des intermittents du spectacle, du travail discontinu et de qualification évolutive aussi bien à l'intérieur d'une vie professionnelle que dans des séquences brèves, ça c'est envisageable en revanche évidemment. Mais à partir de là, on peut avoir une réduction et non pas une accentuation taylorienne de la division du travail. Je ne dis pas une abolition, une suppression, bien évidemment, mais y compris des va-et-vient entre la cassure fondamentale qu'est le travail manuel et intellectuel, où la frontière peut devenir beaucoup plus poreuse dans les deux sens. Bon. Ça, c'est de l'ordre de l'envisageable, mais c'est un problème évidemment fondamental. Alors derrière, il en pose un. Je crois qu'on n'a pas abordé, mais qui m'intéresse, il est peut-être un peu hors sujet, c'est la part de réalité qu'il y a dans le débat, par exemple, du mouvement des chômeurs sur l'histoire du revenu universel, qui me paraît extrêmement dangereux dans l'état où c'est manié. Ça, on en a un peu parlé, puisque je l'ai décrypté, je l'ai encore en tête, mais il y aurait une idée intéressante dans l'histoire du revenu universel, mais elle est extraordinairement ambitieuse. La version pratique aujourd'hui, c'est... Enfin, quand c'est chiffré, notamment par des économistes libéraux, c'est... Bon, je sais pas, on arrive à des calculs de 1500 balles par mois. Bon, c'est une prime qui peut avoir d'ailleurs comme effet de passer en dessous des minima sociaux, par ailleurs, si c'était mis en pratique. Alors qu'en réalité, on peut, si on le prend du point de vue des métamorphoses du travail, pour parler Castel ou Gortz, etc., ça se devient envisageable, mais ça veut dire, en fait... au lieu d'un affaiblissement ou d'une privatisation de la solidarité sociale, ça veut dire au contraire un système beaucoup plus redistributif encore de la richesse nationale, et ça veut dire en fait une super sécurité sociale qui inclut des formes de garantie de revenus. Bon, on est dans la socialisation là, du salaire. Alors bon, des gens comme Friot et tout, l'idée est dans l'air. Hein. Moi je crois que c'est une possibilité et une piste. Mais elle demande, elle n'est pas utopique en soi. Ce qui la fait apparaître utopique, c'est qu'elle demande en fait une évolution des rapports de force qui est complètement à l'inverse de la tendance actuelle, c'est-à-dire un renversement radical de la dégradation actuelle des rapports de force. Et puis il y a une autre piste qui touche à la question de l'égalité, qui me tient à cœur, c'est que souvent aujourd'hui on pense résoudre ces questions sociales par la multiplication des formes de revenus monétaires. Bon, des revenus ceci, cela, minima sociaux, RMI. Et on pense peu à la gratuité. Pour moi, c'est beaucoup plus important, parce que la gratuité, ça veut dire que... Bon, quand on dit l'école gratuite, bon, relativement, elle l'est. Ça veut dire un service d'éducation dont on considère qu'il est de droit, qui fait partie des droits à l'existence, et que la société en garantit la gratuité. Donc, il y a des services, et ça pourrait s'étendre à d'autres. Il y a quelques années, après le tremblement de terre au Mexique, ils ont mis 8 ans à rétablir le paiement du téléphone. Ça veut dire que pendant 8 ans, le téléphone était gratuit. C'est pas ça qui a mis l'État mexicain en banqueroute. Il y a d'autres raisons. Donc, il y a des tas de services qui pourraient être gratuits. Mais ce qui serait le pas supplémentaire, qui ne me paraît pas du tout inimaginable quand on parle des surplus agricoles, etc., c'est la gratuité de certains biens de base. Alimentaire et vestimentaire. Je ne crois pas du tout à l'idée d'une surconsommation à partir du moment où des choses comme le lait, prendre des produits qui sont en surproduction évidente, la viande de porc dont les cours sont effondrés, etc. Tout ça pourrait être gratuit, les gens ne se gaveraient pas et ne se shooteraient pas au lait de vache pour autant. Mais ça veut dire en revanche quelque chose, ça veut dire que la garantie minimale de droit à l'existence existe indépendamment de la contrainte du travail. Ça, c'est une révolution psychologique et des mentalités qui est parfaitement concevable, alors peut-être pas à l'échelle planétaire, il faudrait voir les inégalités, mais enfin qui est de l'ordre du possible, non pas à l'échelle des siècles, mais des années ou des décennies à venir. Alors tout ça serait d'autres pistes et d'autres formes de renforcement d'une idée d'un fil conducteur égalitaire.
Mais tu penses pas qu'il y aurait, si on a les... Moi personnellement, j'ai rien contre, mais des biens de base gratuits, ça ne va pas inciter à chercher du travail, comme on dit dans le peuple.
Je suis beaucoup plus optimiste sur le peuple là-dessus. L'histoire de la désincitation au travail, il faudrait la suivre de près. Il y a, au début des années 70, ou à la fin des années 60, au début des années 70, le chômage était indemnisé à 90% et les gens cherchaient quand même du travail. On peut dire qu'il y aura toujours à la marge tel ou tel profiteur. Mais ça fait partie des faux frais d'une société. Je suis plus optimiste au sens où ça dépend du fait que le travail soit vécu comme une socialisation effective. Moi, s'il y a davantage de travaux intéressants, dans des conditions qui ne soient pas des conditions abrutissantes, où les problèmes de réorganisation et de réduction de temps de travail, etc., il y a des pathologies du non-travail qui sont quand même indicatives. Hein, c'est-à-dire alors peut-être c'est une intériorisation d'une obligation chrétienne, le pain à la sueur de son front, etc. Mais enfin, que ce soit chez les chômeurs ou chez les retraités, les pathologies du non-travail sont tout de même l'indice d'un manque. Alors, le manque est contradictoire, parce que dans nos sociétés, le travail est, dans la majorité des cas, aliéné, hiérarchique, abrutissant, etc. Mais pourtant, il reste, malgré ce caractère-là, un vecteur de socialisation éprouvé comme tel. Et puis, c'est pas nouveau, hein, le film de Murnau, Le Dernier des Hommes, etc. Bon, ça fait partie de l'existence sociale par rapport à soi-même. Moi, je crois qu'aucune des solutions n'est une solution en soi. Si on dit il y aura demain, aujourd'hui il y a 3 millions, demain il y aura 6, 7 millions de chômeurs, et on leur donnera au coin des rues de la viande de porc, du lait et du vin, parce que le vin pourrait être gratuit aussi par ailleurs, vu la surproduction. Bon, on a effectivement une espèce de société d'assistance, mais si on tient les deux bouts, c'est-à-dire développer des secteurs de gratuité au-delà des services, dans des biens aujourd'hui marchands, et d'autre part renverser, je ne dis pas abolir là non plus, mais renverser la tendance à la précarité et au chômage, je ne crois pas que la majorité de la population décide. On le voit d'ailleurs, tu évoquais Milner l'autre jour sur l'Osium, enfin bon, franchement, le nombre de gens, d'ailleurs partout les gens ont affaire à des services, des infirmières. On dit beaucoup de mal. Je trouve que, pour ce que j'en connais, les hôpitaux publics, sans faire l'apologie, chez les enseignants, etc., la conscience, quand on dit la conscience professionnelle, ça existe, ça veut dire que c'est une relation sociale, on a affaire à des malades, on a affaire à des mômes, et les gens y investissent beaucoup d'eux-mêmes, hein, et parfois au-delà de ce qu'on leur demande. Donc je pense que l'humanité n'est pas si sinistre que ça. Alors après, à condition d'agir sur les conditions sociales, ça ne me paraît pas du tout une partie perdue.
Est-ce que ça t'ennuie d'écouter le répondeur si jamais c'est textuel ?
L'autre question qui est liée à celui de la question sociale, donc tu viens déjà de l'invoquer un peu, c'est celle de l'intégration par le travail. Est-ce que justement, au vu de ce que justement Castel a appelé la métamorphose de la question sociale, c'est-à-dire de la montée en puissance de la précarité, mais pas simplement de la précarité au sens de l'exclusion, cette fois-ci au sens du contrat de travail. Il est évident qu'aujourd'hui, une des raisons de la désyndicalisation est quand même liée, disons, à la précarité, à la flexibilité, enfin tout ce qu'on sait, mais au fait qu'il y a aussi l'autre versant, si je puis dire, c'est que de plus en plus, d'individus sont engagés, disons, dans des formes de travail qui ne vont plus les engager toute leur vie. Hein, ils passeront par 1, 2, 3, 4 contrats de travail. Donc cette question du contrat de travail, pendant longtemps, elle a été, au cœur, des conventions collectives, et elle est toujours dans de nombreuses professions. Enfin, tout ça pour dire que le salariat ne représente plus, une entité aussi définissable qu'il pouvait l'être jusque dans les années 60-70. Donc, l'intégration par le travail continue à se faire, effectivement. Bon, moi, je suis plutôt, effectivement, du côté de ceux qui ne plaident pas, a priori, pour la fin du travail. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec des gens comme Dominique Méda. Je ne pense pas que
on puisse supprimer, enfin disons, ce pôle intégrateur, ce pôle social intégrateur qu'est le travail. Mais il n'empêche que le contrat de travail ne représente plus, n'a plus la même dimension, disons, qu'il avait auparavant. Alors, toi, cette fois-ci, en tant que... Comment tu abordes cette question en tant que militant politique, si je puis dire, de la métamorphose du salariat, hein?
Ben, de toute façon, on peut partir d'un point, c'est que qui est d'ailleurs pas, entre nous soit dit, qui est pas nouveau. On en discutait déjà dans les années 60 avec les histoires de la nouvelle classe ouvrière, les trucs de... Les propositions de Fourastier sur les questions de l'éducation, les fameux bons éducatifs, c'est-à-dire le découpage de la vie active entre un temps de formation ou d'apprentissage, un temps de travail actif et puis un temps de retraite qui, à certains égards, apparaît justement comme un rebut, une mise à l'encan du travailleur usé. Il y a quelque chose de plus en plus irrationnel à partir du moment où la métamorphose du travail est à la fois une métamorphose historique, mais aussi une transformation, une évolution constante du travail dans le temps d'une vie active. D'où l'idée d'ailleurs, donc, de plus en plus, enfin, Delors a développé ça, il y a pas, enfin, de donner de plus en plus de souplesse au rapport de formation, requalification de... et non pas d'enfermement dans un acquis définitif une fois pour toutes, sanctionné par un diplôme et puis on vit dessus toute sa vie. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait imaginer très bien, c'est toujours la contradiction, c'est que dans ce qui se passe aujourd'hui, l'idée de que la retraite soit un droit, notamment pour les travaux les plus pénibles, mais que l'on puisse travailler à d'autres rythmes, selon d'autres horaires, et de ne pas avoir une coupure aussi nette dans la vie, tout ça pousse dans le même sens, c'est-à-dire davantage de souplesse et de passage entre le travail et le non-travail. Je ne dis pas le loisir, parce que c'est un petit peu la face compensatoire, mais ce va-et-vient entre travail et non-travail, et des modulations qui peuvent d'ailleurs varier sur la vie. De toute façon, on l'introduit de fait, avec dans certains, justement pour certaines couches et certains métiers, les années sabbatiques, ça existe, les congés de formation, ça existe. Donc cet assouplissement pourrait aller. Aujourd'hui, il entre, ce besoin entre en contradiction, ce besoin de plus grande mobilité entre en contradiction avec les besoins disciplinaires du travail salarié, en revanche. Donc, il demande une certaine forme de soumission. Alors, en même temps, il faut bien s'adapter, et l'adaptation prend la forme de l'individualisation du contrat de travail, de l'individualisation du salaire, autrement dit, d'une atomisation du salariat, sous la pression du chômage et de la précarité, mais y compris ce que tu dis, c'est-à-dire dans le contrat de travail, de plus en plus d'éléments du contrat individualisés, alors, avec un phénomène qui se développe, et où on voit aussi, qui laisse entrevoir ce qui serait envisageable, c'est que devant ce phénomène, il n'y a pas de contrat de durée à vie, où il n'y a pas de métier de qualification acquise à vie. Donc cette idée de la continuité, de la stabilité et de la pérennité d'un contenu et d'une forme de contrat de travail est battue en brèche. Dans le système libéral, ça se traduit soit par l'atomisation, l'individualisation, et donc une vulnérabilité accrue du travailleur individualisé face à l'entrepreneur, au patron, appelons-le comme on veut, soit quand on voit apparaître aujourd'hui des éléments de réponse, par exemple dans le rapport Boissonnat, ce qui est suggéré, c'est en fait une sorte d'intérim mis en coopérative entre 3 ou 4 entrepreneurs d'entreprise. Autrement dit, on aurait un travailleur bouche-trou qui serait intérimaire, mais au lieu d'être intérimaire d'un bureau d'intérim, Manpower, il serait intérimaire de 4 ou 5 entreprises entre lesquelles il va tourner selon les besoins et les fluctuations de la production. Alors moi je crois qu'il y a ça rejoint la question précédente pratiquement, soit on reste dans une logique marchande et on va arriver à des formes comme celle-là, mais qui sont des formes qui en réalité d'une part individualise, mais renforce considérablement la dépendance. C'est-à-dire que ce travailleur-là ne sera pas plus libre. Il va courir avec son bip ou son téléphone portable à la demande, entre 3 ou 4 demandes, sollicitations et patrons qui vont se partager à peu près sa force de travail. L'autre solution pour répondre à cette tendance, je crois que la tendance est réelle de transformation du travail et qu'elle peut être positive parce qu'un travail moins fixe, effectivement, peut développer une polyvalence qui est, de même qu'il y a une diversité des besoins qui est un enrichissement de la personnalité, une diversité des capacités peut l'être aussi, ça dépend des conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Mais à partir de ça, ça veut dire que la régulation de ces mouvements, soit elle est privée, ça donne ça, hein, cette espèce d'intérim généralisé, soit elle est sociale, et ça veut dire donc un service de distribution de la main-d'œuvre et de l'emploi qui soit un service public autre que ce qu'est la NPE aujourd'hui, des garanties de salaire pendant les périodes intermédiaires de ces intermittences. Bon, alors, est-ce que c'est possible à financer bon, pourquoi pas, là le calcul doit être faisable, mais on dit tout ça c'est pour contrepartie d'une augmentation de la productivité, ça veut dire qu'on produit autant et plus en moins de temps. Donc il n'y a pas tellement de raisons qu'une autre organisation du travail se traduise par une baisse des capacités de financement. Je ne vois pas quelle est la rationalité qui ferait que ce ne sera pas finançable puisqu'il y a en contrepartie un gain de productivité collective sur ça. Donc, alors ça peut être un service national de l'emploi et de l'éducation avec une ligne budgétaire disons de mobilité des emplois qui traite ces intermittents. Ça existe aujourd'hui pour les intermittents du spectacle. Alors demain, tous intermittents du travail, pourquoi pas.
Ça n'a pas de rapport, mais en tant que, disons, militant politique, toi, quel regard tu portes à la fois sur l'humanitaire, j'entends mon humanitaire intelligent, comme peut le pratiquer Ronny Broman ou d'autres, et les associations, disons, humanitaires, comme ATD Quart-Monde, enfin, qu'on pourrait appeler des associations, disons, charitables.
Ah, t'es vache, hein. Je reviens un peu sur la question précédente, parce que tu le dis en tant que militant, c'est un débat qu'on a, hein, qu'on a. Notamment, peut-être évidemment, mais c'est l'endroit le plus sensible d'un mouvement comme Agir contre le chômage, où, bon, si c'est une redite, parce qu'on a dû l'évoquer, mais bon, il faudra la supprimer quelque part, mais la théorisation de la fin du travail, vu l'exclusion subie, est une tentation. On est obligé de se, en permanence, de c'est la polémique centrale, hein, dans une relation comme AC. Bon, qui est une relation gauchiste, il dira ah, bah, le travail c'est l'aliénation, il n'y en a plus et on n'en veut plus, et donc on veut un revenu et pas du travail. Bon, le compromis s'est fait pour le moment, mais, ah, non, un emploi c'est un droit, un revenu c'est un dû, mais c'est un compromis. Il faut dire, bon, on peut tenir les deux bouts de la chaîne, si on n'a pas d'emploi, on a droit à survivre ou à vivre, etc. Mais derrière ça, il y a un débat permanent sur le travail, l'avenir du travail, etc., qui est un débat structurant qu'on retrouve dans le monde syndical. Et je crois qu'il est très important parce que ce n'est pas uniquement un débat idéologique. Selon la réponse qu'on lui donne, on a des cibles, des objectifs qui sont pas exactement les mêmes. Hein. Notamment, ça peut conduire à renoncer à la bataille sur la création d'emplois ou sur la réduction du temps de travail, tout simplement. Bon, alors sur l'humanitaire, j'essaie de m'abstenir d'un jugement parce que à partir du moment où il y a un état d'urgence sociale, ce qui est de plus en plus le cas malheureusement, à l'échelle internationale et à l'échelle nationale, l'écho et l'essor de ces mouvements-là manifeste une générosité, une solidarité, une aspiration à. Donc il n'y a pas de jugement à porter à mon sens sur la forme d'engagement militant. Alors le problème qui a une histoire très longue, hein, que je ne connais pas bien par bribes, mais dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est entre ceux qui se tournent vers l'État en disant oui d'accord, mais enfin la solidarité publique, ça s'organise. C'est pas forcément l'État d'ailleurs, parce que la sécurité sociale, de mon point de vue, c'est pas une administration de l'État, hein, c'est une mutuelle généralisée, elle peut être dénaturée par une gestion bureaucratique et ne pas être vécue aujourd'hui comme ça. Enfin, originellement, au moins jusqu'au plan Juppé, c'était une solidarité mutuelle, une espèce de caisse de solidarité généralisée. Et donc, le débat, moi, je l'ai vécu beaucoup au Brésil, parce qu'on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que, ou bien on demande que se créent des services d'État, ou bien on gère la pénurie avec les moyens du bord et les solidarités sociales. Ceci dit, cette forme de gestion-là, à condition de ne pas théoriser l'assistentiel, c'est-à-dire de pas se résigner à colmater les brèches justement de services publics défaillants, etc., elle a aussi ses vertus, c'est-à-dire que c'est une prise en charge au lieu de... L'assistance, elle peut jouer des deux côtés, elle peut jouer dans le caritatif, on pense les plaies du monde et on substitue la charité à la solidarité, qui elle est une relation politique, une conquête politique, on rejoint le débat précédent, mais elle peut aussi, l'assistance peut aussi se trouver dans la demande d'État, que l'État résolve les problèmes et qui est aussi une perte d'autonomie. Autrement dit, dans, moi j'ai bien vu comment s'organiser dans les favelas, la prise en charge de l'auto-formation, de l'alphabétisation des femmes par exemple, l'éducation sexuelle, les programmes de planning familial, etc. C'est un élément d'auto-organisation, de milieu, bon, pour qui c'est le début d'une existence collective. Alors ça, après, c'est une contradiction à gérer. La contradiction, elle peut aller évidemment jusque à un moyen, oui, je répète, de colmater les brèches et finalement de laisser l'incurie publique suivre son cours. Elle peut tomber dans des formes de dépendance autres. Dans le tiers-monde, c'est rare que ce type d'organisation humanitaire, de terrain, ne vive pas par des subventions type Fondation Ford, etc., qui sont aussi des canaux de corruption. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire que dans les années 80 en Amérique latine, la montée en puissance des ONG a fait émerger une mini-bureaucratie aussi, dans son genre. Par, le monopole des mécanismes de financement, des relations avec les pays de l'Union européenne ou des États-Unis principalement, etc. Mais tout ça ne peut pas être éliminé sur le papier. C'est des contradictions qui n'ont pas de solution absolue. Ça veut dire, c'est dans l'éducation, dans la conviction politique, que ces contradictions-là se gèrent. Alors, plus largement...
Mais tu as travaillé au Brésil, toi ?
Oui, une dizaine d'années.
Ah, bon.
Ouais, j'étais pas en permanence, mais je passais plusieurs mois par an, de 79 à 89, toute la période de construction du PT. Et... Non, ça, alors bon, par ailleurs, alors l'autre problème aussi, mais qui est peut-être pas exactement l'humanitaire, parce que là on dirait, ce qui me gêne effectivement dans l'humanitaire, c'est la manière dont le discours, il peut y avoir des discours humanitaires lucides et intelligents, mais comment le discours peut déplacer tout de même, peut sanctionner ou encourager un recul du principe de solidarité au principe de charité. Là, je crois qu'on est réellement dans le réalisme. La solidarité, c'est un droit conquis, acquis, avec des formes institutionnelles. La charité, c'est une affaire privée, en son âme et conscience, c'est une affaire de morale ou de religion privée. Bon, je crois que... mais c'est pas fatal que ce soit ça. Hein. Alors, derrière, il y a un problème peut-être plus vaste qui est plus le problème des relations non gouvernementales que le problème de l'humanitaire plus particulièrement, mais qui est le rapport de ces formes d'organisation à la démocratie. C'est que, par exemple, on a vu le rôle des relations non gouvernementales dans, notamment à l'occasion du sommet de la Terre de Rio ou des rencontres de Kyoto et de Buenos Aires sur les questions d'environnement. Et là, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'organisations non gouvernementales, mais dont la forme d'existence, je ne vois pas quelle autre il pourrait avoir, c'est le lobbying. C'est-à-dire qu'on a affaire à des questions qui se traitent dans des grandes conférences internationales sur lesquelles le pouvoir citoyen, comme on dirait aujourd'hui, a peu de prise. Et donc ce qui prend le relais, c'est un lobbying d'organisations non gouvernementales Mais le lobbying, c'est pas l'idéal, c'est pas le deuxième souffle de la démocratie. Hein. C'est bon, c'est avoir les points d'appui dans les couloirs à Bruxelles, à Kyoto ou ailleurs. Et là, là aussi, un effet un petit peu pervers, c'est-à-dire que au départ, l'ONG apparaît comme une réappropriation du politique par rapport aux structures partisanes, institutionnelles ou parlementaires, et in fine, elle participe, bon gré mal gré, du développement de pratiques de groupes de pression, d'autant plus qu'on s'éloigne dans les sphères de décision et qu'on monte l'escalier au niveau international, mais qui est un moyen, alors là, de moins en moins sous contrôle, disons, d'une citoyenneté active et effective.
Alors, toi qui as pratiqué, disons, le militantisme sur plusieurs décennies, qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé, à la fois historiquement et pour toi, dans la manière de faire de la politique ?
De faire la part des choses dans ma tête parce qu'il y a, un point qui est trop, peut-être trop anecdotique. Enfin, faudrait y réfléchir. Je pense que c'est peut-être du fait qu'on était ultra minoritaire et disons que il y a des militantismes, c'est ça le problème. Hein. D'abord, le militantisme pas réservé au militantisme de parti, un militantisme syndical, un militantisme social, ces différentes formes de s'investir et de s'impliquer. Dans la vie civique, la nôtre en a été une bien particulière, c'est-à-dire elle était très tendue vers un objectif, je ne dirais pas comme ça, il faut trouver la formule qui convient pour qu'elle soit intelligible, mais entre nous je dirais ultra stratégiste, c'est-à-dire que de par le contexte des années 60, un militantisme tendu par... porté par l'idée de l'imminence révolutionnaire, d'une révolution à court terme, et donc une culture minoritaire, hein, pour ne pas dire marginale, le mouvement que nous avons effectué, c'est un retour sur un militantisme beaucoup plus social. Aussi par la force des choses, hein, dans les années 80, l'heure n'était pas à l'illusion et aux grandes envolées lyriques, donc résister, c'était s'accrocher au terrain, là où existent les résistances, donc un retour au point d'arrêt, au cran mis à l'offensive libérale, donc essentiellement le mouvement syndical, le mouvement social, alors qui s'est résumé par une formule agir politique, agir socialement, penser politiquement, enfin, toutes ces formules-là traduisaient ce retour vers une importance du social comme point de gestation, comme point de départ d'une renaissance politique possible. Ça, c'est une évolution. Et le deuxième est d'ordre idéologique. Comme je dis, avec des militantismes, cette évolution est sûrement moindre dans le courant auquel j'ai appartenu assez tôt, finalement, parce que moi, j'ai été exclu du PC en 65. C'était une bonne affaire, pour une bonne cause, pour ne pas avoir voulu voter Mitterrand en 65. Donc c'était tout à fait... plutôt satisfait, mais... je crois que j'ai pas eu, pour reprendre les formules de Marcel Gaucher là, dans un bouquin, j'espère, je crois pas avoir eu à faire le mouvement de décroyance. On a eu une part de croyance où on s'est un peu raconté des histoires, pas totalement, c'est dur de faire la part des choses après coup. Les années 70, leur issue n'était pas jouée d'avance. Après coup, c'est facile de dire on a surestimé 68, on a fait une montagne de ce qui n'était qu'une colline. Moi, j'aurais tendance aujourd'hui à réévaluer beaucoup plus sobrement 68. Hein. Mais si on réévalue 68, on réévalue également l'onde de choc européenne en tout cas du début des années 70, mais la façon dont ça a tourné entre 76 et 78 en Europe n'était pas jouée d'avance. Il y a un enchaînement d'événements dont, à moins d'être fataliste et mécaniste, rien ne dit qu'il ne pouvait pas à un moment donné bifurquer autrement. La transition en Espagne commence à s'articuler à l'affaire portugaise, etc. Là, il y a tout d'un coup un enchaînement que personne ne peut prévoir et maîtriser. Mais alors, je crois qu'il y a eu surtout un enthousiasme militant, mais quand je dis je n'ai pas eu à subir le même type de décroyance, ça me frappe dans le bouquin de Gaucher, je pense, que quand il parle de ce phénomène, lui dit on a vécu un point de conversion au début des années 70, c'est assez curieux, ça m'a un peu surpris. Et là, je crois que c'est un petit peu une histoire identifiée aussi, c'est-à-dire que il y a un travail de deuil de la croyance. Le maoïsme européen était un phénomène de croyance extraordinaire. Ça, bon, c'est pas pour se dédouaner, mais c'était pas mon truc, disons. Alors ça a quand même une conséquence, c'est pas dire qu'il y en avait qui étaient plus croyants que d'autres, on était moins couillons, mais c'est que notre univers a pu évoluer par correction, par rectification, par réévaluation, et c'est pas un univers de pensée qui s'est effondré. Hein. C'est une formule d'Althusser qui, bon, son univers de pensée s'est effondré. Je crois que l'univers de pensée du maoïsme s'est effondré. Je crois que la façon dont a fini la sinistre affaire des régimes bureaucratiques, des dictatures d'Europe de l'Est, etc., on aurait pu espérer un autre dénouement. Enfin, le scénario ne nous surprend pas outre mesure. Donc, alors, je crois qu'il y a ce phénomène-là. C'est vrai que, sans l'avoir vécu pareil, il y a quand même une forme de peut-être pas de décroyance, mais si tu veux, il y a un effet. Aujourd'hui, on considère que des choses qu'on a faites ou dites dans les années 70 paraissent un peu dingues, dans l'exaltation, etc. Mais je crois que c'était lié à cette idée politique, c'est-à-dire cette idée de l'urgence. Hein. Moi, il y a une formule, c'est vrai que j'avais employé à l'époque, qui m'a suivi un peu tout le temps dans nos débats microcosmiques, c'était l'histoire nous mord la nuque. On avait l'impression d'être très pressé. Régis Debray a théorisé ça pour l'Amérique latine en disant les guérillas, enfin, la théorie du Foucault, c'était un léninisme pressé. Et bon, c'est l'éducation, Guevara, etc., le Vietnam, il y a urgence, il faut faire vite, il faut aller vite. Et cette espèce de hâte, d'impatience révolutionnaire produisait des tas d'effets culturels. Et si on pense que la révolution est dans 4-5 ans, que donc les faits vont trancher entre les bons et les mauvais, ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, etc., ça développe une intolérance extraordinaire. C'est-à-dire, bon, il vaut mieux se séparer des hésitants tout de suite, les scissions n'ont aucune importance. Bon, tout ce phénomène d'émiettement est en grande partie lié à ça. On n'a pas la patience de vivre avec la contradiction, de donner le temps au débat. La démocratie s'élance, ça demande du temps. Aujourd'hui, bon, ben, disons que pour prendre des formules un peu emblématiques, il y en a une de Georges Steiner dans le petit bouquin qui s'appelle Épreuve, je ne sais pas si tu connais, qui est un très beau petit bouquin, un récit de fiction. Mais une lente impatience. Bon. Oui, ben aujourd'hui, disons que je suis plus dans la lente impatience que dans l'impatience pressée des années 70. Alors, ça change beaucoup de choses, hein, sur le regard sur le monde, sur la façon de débattre, sur la façon d'accepter les contradictions, et de se dire que... Et puis aussi, peut-être un changement de vision sur l'histoire, que l'histoire ne tranche rien. Elle ne fait rien, elle ne tranche rien. Donc c'est à nous de nous débrouiller avec ces énigmes. Ça.
Oui, mais alors par rapport à des échéances électorales, est-ce que selon toi, l'action politique doit essentiellement se déterminer au cours de ces échéances, par exemple les échéances européennes qui auront lieu en juin, sachant que ça c'est une question qui m'amuse, il y a des pays où le droit de vote est obligatoire. Le Brésil, je crois que c'est le cas, et des pays où le droit de vote n'est pas obligatoire. Donc, sans sombrer dans l'anti-électoralisme, quelle position, disons, tu adoptes par rapport à la représentation parlementaire, sachant que, tu l'évoques dans ton entretien avec Françoise Proust, tu sais qu'il y a des philosophes, encore aujourd'hui, je crois qu'il faut plutôt s'en honorer en France, parce que ça me paraît être une spécificité quasi enfin, à défendre. Il y a des philosophes anti-parlementaires, de Rousseau à Badiou, disons, il y a malgré tout des lignées, qu'on le veuille ou non. Donc je crois que tu ne fais pas partie de cette catégorie de penseurs, non pas que tu mettes le parlementarisme au sommet de la politique, ni la représentation politique, mais pour toi les échéances électorales ça compte. Alors d'abord, une question donc sur le droit de vote, est-ce que tu penses qu'il devrait être obligatoire? Et deuxièmement, par rapport aux échéances de l'élection européenne, quel rôle, à ton avis, peut jouer donc la gauche de la social-démocratie? Et d'ailleurs, comment, question subsidiaire, donc, tu définirais aujourd'hui cette gauche de la gauche, sachant qu'on est quand même largement dans le flou s'agissant de cette gauche de la gauche?
Tout d'abord, sur la question des élections, moi, je pense que on vit dans des régimes, alors on peut critiquer, c'est mon cas, on pourra peut-être éventuellement y venir si on a le temps, mais faire une critique même féroce du parlementarisme et de ses effets pervers. Cette critique, elle est, entre parenthèses, aussi bien de droite que de gauche. Ah oui. Et son meilleur résumé, ce qui est étonnant d'ailleurs, là, j'ai relu récemment Parlementarisme et démocratie, qui sont les textes de Carl Schmitt des années 20, et, bon, et tout ce qu'il dit sur le parlementarisme à l'époque a pas pris une ride. C'est-à-dire que dans les critiques aujourd'hui qui circulent dans la presse, ou dans le débat d'opinion sur le discrédit parlementaire, on retrouve les mêmes griefs de professionnalisation du pouvoir, d'un parlement antichambre de l'administration, etc. etc. Donc le parlementarisme comme forme de représentation, la critique, je la maintiens, tout le problème est de savoir quelles sont les formes de démocratie alternatives ou complémentaires, selon les cas. Bon. Alors en revanche, dans des pays qui vivent d'une tradition parlementaire ou électorale depuis bientôt un siècle, il me paraît complètement illusoire. Alors, ou bien on pense que on s'installe dans le travail du négatif. Et bon, on se contente de cette critique-là et on se dit que les masses, l'histoire, inventeront des solutions, ou bien qu'il n'y a pas de solution positive à apporter, qu'il faut résister et protester. Ou bien on pense faire bouger les rapports de force, et alors il est inconséquent de dire on agit sur le terrain social, on revendique des droits pour les chômeurs, on revendique des garanties salariales ou statutaires pour les salariés, et penser que ce qui se passe sur le terrain électoral, y compris parlementaire, qui en est finalement la sanction, ne fait pas partie du rapport de force. Bien sûr, ça en fait partie. Sinon, on est en train de théoriser le fait que le mouvement ou les mouvements sociaux dans leur pluralité sont un gigantesque lobby, mais qui, au moment de conclure, bon, passe la main en grognant, en rechignant, mais passe la main à la profession politique. Bon, alors ça, je crois que... Et même si on, même dans une perspective révolutionnaire, on ne peut pas imaginer un changement de rapport de force dans nos pays, justement, avec ces traditions, qui ne soit préparé, annoncé par des modifications de rapport de force, y compris sur le terrain électoral. Je sais que les révolutions, Lénine ou d'autres ont dit ça 36 fois, on apprend plus vite en un mois qu'en 50 ans ou qu'en 20 ans, et que les masses se métamorphosent dans l'action, c'est vrai, mais pas au point de passer de rien à tout d'un coup une autre culture politique. Bien sûr, ça fait partie d'une préparation. J'imagine pas que des idées d'extrême gauche puissent passer de 1% à être majoritaire, même avec un mai 68, s'il n'y a pas eu des évolutions, des lignes qui bougent avant. Donc, pour moi, c'est un terrain qui est miné, qui est défavorable, qui est truqué, on peut dire tout ce qu'on veut, mais malgré le trucage, si on n'arrive pas à y faire apparaître autre chose, bon, c'est plutôt un signe d'impuissance. Donc, et derrière, alors on peut faire d'impuissance vertu, hein, j'ai beaucoup de respect du coup là, par rapport aux philosophes extra ou non parlementaires que tu citais, mais je remarque quand même quelque chose qui est quand même inquiétant, c'est que souvent ce refus-là fait que ils s'inscrivent dans des héritages ou des traditions de pensée peu sensibles, je le dirais comme ça, c'est peut-être un euphémisme, j'aime pas les euphémismes et les périphrases, et peu sensibles à la question démocratique. Il y a un héritage dans certains milieux de la révolution culturelle, on ne peut pas dire que c'était une grande leçon de démocratie. Et autant on peut se dire que la majorité, le nombre, n'est jamais une preuve de justesse ou de vérité, ça me paraît évident, que malgré tout, le nombre et la majorité ont un sens et qu'il faut en prendre acte. Pendant la ligne de compte, il y a une formule dans Signe de Merleau-Ponty qui dit, bon, c'est pas un bon système, mais bon, c'est le seul moyen qu'on ait d'exprimer très mal ce qu'est la réalité à un moment donné d'une opinion, etc., dans les conditions ordinaires actuelles. Donc, je crois qu'il y a ce double souci, c'est-à-dire que tout en refusant l'illusion de la vertu majoritaire en soi, mais elle pose quand même un problème démocratique qu'on ne peut pas ignorer. Et si on ne trouve pas d'autres formes démocratiques supérieures, ben celle-là, et c'est pour ça que les gens y sont attachés quand même, c'est que tant bien que mal, vaille que vaille, voilà. Alors ça, ça ne doit pas amener, à mon sens, du tout à du réglementaire, au vote obligatoire. C'est-à-dire que ce qui fait la citoyenneté, le comportement civique dans l'usage du droit de vote, c'est une certaine aspiration à contribuer à la définition du bien commun. C'est un héritage d'instruction. En refusant de voter, on peut aussi manifester quelque chose.
Oui, mais est-ce qu'une démocratie où il y a un citoyen sur deux qui ne vote pas, comme aux États-Unis, a encore un sens?
Et une démocratie où il serait obligé de voter, est-ce qu'elle aurait plus de sens? Non, je... honnêtement, non, je ne crois pas. Je crois que c'est finalement un moyen commode. J'en ferai pas une question de principe d'un sens ou dans l'autre, mais de masquer la misère de la vie démocratique au lieu de trouver les moyens qui font qu'on ait envie de participer. C'est-à-dire que la désaffection de la vie publique, elle tient à la crise sociale, à la crise du travail, à la crise urbaine. À bien des choses, ça serait trop facile de penser qu'on va masquer ça en disant, les gens seront obligés d'aller voter ou ils auront une amende. Non, je crois que c'est prendre le problème à l'envers. Bon, si ça se faisait, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, moi, c'est pas par ce bout-là que je prendrais le problème. Alors, pour ce qui est de la gauche, peut-être à poser deux questions sur la gauche. La gauche de la social-démocratie, en réalité, à partir du moment où la social-démocratie reste une formation politique qui, par son histoire, a un lien historique avec le mouvement populaire, je pense que ce lien est affaibli de plus en plus, il n'est pas nul, il n'a évidemment plus la forme qu'il a eue dans les années, dans l'entre-deux-guerres, par exemple. Il n'a pas les liens syndicaux, il reste des réseaux de mutuelles, d'associations, et une emprise sur l'électorat populaire qui fait que ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas une bulle électorale. Il y a une réalité sociale derrière, mais je dirais au moins un lien distendu et affaibli avec ces milieux populaires. La contrepartie de ça, c'est, on l'a déjà un petit peu évoqué, donc on verra, mais qui est de plus en plus en revanche d'intégration sur la durée à l'appareil d'État, ce qui n'était pas le cas au début du siècle sous cette forme-là, et à l'osmose, l'espèce d'échange organique entre milieu d'État, milieu d'affaires. Bon, alors, le problème, c'est que à partir du moment où il subsiste malgré tout un lien au milieu, au mouvement populaire, ces partis subissent ou sont traversés de plus en plus marginalement, à mon sens, de contradictions. Il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui dans les partis sociaux-démocrates européens de ce qu'a été le pivertisme dans les années 30, ou la gauche socialiste italienne, ou même ce qu'étaient des courants significatifs dans le PSOE espagnol au moment de la guerre civile. Donc, il y a des petites gauches, mais qui sont elles-mêmes, sûrement, il y a plus ces partis gardent des liens vivants avec le tissu, la réalité sociale, plus il y a de chances qu'existent des gauches significatives. Bon, vu les liens qu'a encore, mais bien affaibli, le Parti travailliste avec le mouvement syndical anglais, bon, on a pu avoir des phénomènes Tony Benn, Livingstone, etc., dans les années, jusqu'à la défaite de la grève des mineurs en 84. Il peut y avoir peut-être des gauches dans la social-démocratie allemande. Le PS français est quand même quelque chose de très particulier. Hein. Je ne sais pas où il en est en termes d'effectifs. Selon les congrès, ça tourne autour de 160 à 180 000 membres, dont près de 80 000 élus. Alors, évidemment, un petit élu, conseiller municipal à Romorantin, n'est pas un énarque du sommet de l'État. Mais ça veut dire quand même que la vie interne d'un tel parti est déterminée principalement par son lien à l'appareil d'État ou aux appareils d'État au sens large. Bon, du coup, les chances d'une gauche authentique là-dedans, il y aura toujours un espace de gauche critique, parce que c'est un parti de masse, mais je crois le seuil de croissance et la possibilité d'action est assez clairement balisé par la raison de l'appareil, certaines initiatives positives d'un courant comme la gauche socialiste et en même temps reste très tributaire du jeu interne d'appareil, etc. Alors, du coup, le problème d'une gauche de gauche, pour reprendre la formule de Bourdieu, tu dis ça reste assez flou, assez vague. De mon point de vue, pas si flou que ça, parce que j'aborderai pas le problème d'un point de vue d'un jeu de construction, hein, d'une espèce d'inventaire de qu'est-ce qui pourrait rentrer dedans, tel mouvement, tel groupe, tel courant, tel sous-courant du PC, de l'extrême gauche, etc. Mais plutôt par un problème de contenu. C'est toujours moi, je dis que je suis plus dans la foi, mais enfin, je suis quand même un peu d'optimisme, parce que une gauche de gauche, c'est d'abord des prises de position et des interventions. Or, si on prend la décennie écoulée, je pense qu'il y a des tas d'expériences qui n'ont pas évidemment la force propulsive d'un événement révolutionnaire ou même d'une grève générale comme 68 qui distribue les cartes ou les redistribue. Mais enfin, la guerre du Golfe, c'est un positionnement par rapport au nouvel ordre mondial, au rôle qui jouent les États-Unis, etc. Le nom à Maastricht, qui ne soit pas un nom nationaliste, frileux, mais pour une proposition d'Europe alternative, sociale, écologique, etc. Les questions du service public ou de la protection sociale en hiver 95, les questions de la citoyenneté autour des sans-papiers, les questions du Pax, de l'égalité dans le mouvement des femmes, etc. Les chômeurs avec le débat sur le travail, je crois que, alors, il y a là quand même tout en pointillé, disons, plus qu'une addition, une somme, une mise bout à bout d'une série de combats, il y a des éléments non systématisés, mais de ce qui serait de mon point de vue une politique de gauche, d'une gauche de gauche. Ces points-là sont communs, alors il y a des géométries variables, mais enfin, que ce soit dans les équipes militantes du mouvement associatif, sur le logement, sur l'antiracisme, que ce soit dans certains secteurs syndicaux, et que ce soit dans le PC, dans l'extrême gauche ou chez les Verts, disons qu'il y a une diaspora de cette gauche de gauche qui, dans d'autres pays, se serait retrouvée. Pas facilement, mais dont je crois que. Bon, et ça peut. Tout mon problème, c'est de faire en sorte que ça existe. Disons, je dirais encore, tout le monde, un parti virtuel de cette gauche de gauche, bon, il faut savoir par quels moyens on peut le transformer en parti réel. Mais c'est un petit peu le défi des années à venir. Ou bien, finalement, il se dégage un espace consensuel, social, libéral, une gestion éclairée et tempérée de la mondialisation par une espèce de social-démocratie européenne que les Allemands appelleront Nouveau Centre, les Anglais Troisième Voie et nous, je ne sais pas quoi. Bon, pour moi, ça serait une défaite historique. Ou bien alors, on arrive à faire exister cette gauche de gauche avec des points, par ailleurs, qui devront être clarifiés. J'ai souvent repris au cours de cet entretien la question, parce que je crois qu'elle est clé de l'appropriation sociale de ce problème. Est-ce qu'on est pour des formes de socialisation, quoi. on y revient de manière récurrente, service public, propriété sociale, etc. Bon, et ça reste quand même un point discriminant. Est-ce qu'il y a une autre logique, est-ce qu'il y a une autre régulation qui peut l'emporter sur le marché, ou est-ce que être de gauche aujourd'hui, c'est atténuer les effets, les brutalités du marché, point. Voilà, là il y a une ligne de partage.
Mais est-ce que le meilleur moyen de redéfinir et d'élargir cette gauche de la gauche, c'est de continuer à s'appeler Ligue communiste révolutionnaire, à s'appeler lutte ouvrière, à persévérer, disons, dans ce qui fait quand même malgré tout référence au mythe de la table rase, et ce qui ne refonde pas véritablement un autre type de projet politique, en tout cas ce qui ne le rend pas véritablement visible.
Bon, écoute, sans tomber dans la tambouille, parce qu'on a discuté, on l'a fait publiquement il y a quelques mois, et le problème se reposera d'un changement de nom. C'est une affaire délicate. Pourquoi ? Parce que, bon, je le prends par ce bout-là, parce que c'est concret, donc ça permet d'essayer de répondre à ta question. C'est une affaire délicate parce que, par exemple, de mon point de vue, sans fétichisme des mots, mais la notion de communisme est quand même, comme on n'invente pas le vocabulaire à son gré, c'est un mot qui a une histoire, et ça reste finalement le plus précis, d'un point de vue historique et d'un point de vue programmatique. Alors, point de vue précis, mais je ne suis pas complètement cinglé, précis pour un lecteur de Marx ou pour quelqu'un qui connaît l'histoire du mouvement ouvrier, c'est donc un mot qui avait un contenu, qui correspondait à des expériences historiques et qui, de mon point de vue, n'est pas identifiable et au contraire s'oppose à ce qu'a été le stalinisme. Bon. Alors, après, le fait est que pour des millions de gens, et même un peu plus, l'identification a opéré, qu'aujourd'hui, on peut se dire communiste. Hein. Je pense qu'il y a eu quelques années, c'était plus difficile que maintenant. Par rapport à des gens qui arrivent aujourd'hui, il y a malgré tout une idée vague de quelque chose d'égalitaire, c'est aussi la commune, c'est pas seulement les images négatives, il y a aussi un contenu positif qui le dispute, donc c'est pas une affaire simple, même chez les générations plus jeunes, il y a une force d'attraction et de répulsion, les deux existent, c'est difficile de les mesurer. Mais ce que je conçois très bien, c'est qu'en tout cas il y a un chapitre qui s'est fermé, hein, le fameux le grand siècle historique, etc., et qu'on est à l'entrée d'un nouveau chapitre. Alors, dans mon idée de l'histoire, on ne fait jamais table rase, justement, donc on ne va pas écrire le nouveau chapitre en oubliant le précédent. Autrement dit, il y a tout un héritage qu'il faut arriver, on en a discuté l'autre fois, à transmettre, à retranscrire, à retravailler. Ceci dit, on est finalement, quand je dis un nouveau chapitre, au seuil d'une refondation, mais d'une refondation sans événements fondateurs. Pour le moment, les événements sont des événements négatifs. Ce sont des événements de déconstruction, pour jargonner un peu. La disparition de l'Union soviétique, c'est un événement majeur dans l'histoire du siècle, ça a quand même marqué tout le siècle, mais ça ne crée rien, ça ne fonde rien de nouveau. Ça accumule des gravats, des ruines, etc. Pour le moment, il n'y a pas d'événement fondateur qui permette de dire, ben voilà, ceux qui viennent du communisme, de l'écologie radicale, d'un socialisme de gauche, de courants libertaires, peuvent, au seuil de cette nouvelle donne, se rassembler, se trouver ensemble autour, y compris d'un vocabulaire et de mots nouveaux. Mais ce que je pense, c'est que, bon, il faut être prêt, en tout cas, bon, je dis tout à l'heure, je participais pendant quand même une bonne période de ma vie à l'affaire brésilienne. Pour moi, alors, en France, il n'y a pas les conditions d'un parti des travailleurs, parce qu'il existe un parti communiste qui est encore bien qu'affaibli, important. Il existe un parti socialiste. Après une dictature au Brésil, tout le monde était réduit à l'état de groupuscule, et finalement a surgi un parti unitaire d'un mouvement social, là, pour le coup, des grèves de 79. A surgi un parti unitaire qui rappelle un petit peu la social-démocratie avec sa diversité, y compris ses composantes révolutionnaires d'avant 14. Bon, voilà. Bon, en France, on n'est pas devant ce cas de figure aujourd'hui. La gauche est réellement plurielle et je pense durablement. Le problème, est-ce que peut exister une gauche révolutionnaire ? Alors aujourd'hui, je crois que Il ne s'agit pas de s'enfermer dans l'héritage de l'extrême gauche, on ne demande qu'une chose, c'est aller au-delà. Pour aller au-delà, je pense qu'il faut qu'une tradition de pensée, d'histoire, d'expérience, parce qu'on n'en a pas fini avec cette histoire, quand je dis on change de chapitre, ça ne veut pas dire qu'on efface, que ce n'est pas l'ardoise magique, ce n'est pas la page blanche. Donc, il faut que cette histoire, cette mémoire soit transmise et portée. Ceci dit, ce n'est pas un préalable à entreprendre quelque chose de nouveau avec des gens qui viennent d'expériences différentes. Donc, quand je dis aujourd'hui les conditions pour que cette gauche de gauche qui existe à l'état virtuel, dispersée, prenne corps politiquement, ben c'est que les équipes militantes, les acteurs de ce qu'on appelle le mouvement social, à telle ou telle occasion, finissent par s'y engager, que des courants issus du Parti communiste ou de l'écologie radicale et sociale s'y engagent. Et je crois que là-dessus, à partir du moment où on constate qu'il y a, au fil des expériences, suffisamment de substances communes, il faudrait à l'évidence pas faire un préalable de questions de vocabulaire, d'étiquette, même si les symboles ont leur importance. Mais bon, voilà. Ça, c'est un état d'esprit pour aborder. Maintenant, après, il faut être plusieurs. Enfin, entre nous, le problème, en réalité, c'est le PC. Le PC est un nœud, un carrefour et un nœud qui gèle beaucoup de choses.
Et sur l'Europe, qu'est-ce qui vous distingue fondamentalement du PC?
Déjà, probablement le passé et l'avenir, les deux. Le passé au sens où le PC, on s'est retrouvé mener des combats communs sur le référendum de Maastricht, des choses comme ça. T'es en train de perdre la fortune.
Non, non. Fermé la fenêtre, je
vais continuer. Ah oui, t'as raison, ça se rafraîchit. Mais le PC s'est opposé, disons, à Maastricht, mais en partant, ça a évolué au fil des ans, mais en partant d'un point de départ pour nous extrêmement nationaliste. On pense que la façon dont dans les années 80 encore, le Parti communiste a décliné le produisant français et dont il a traité le problème réel par ailleurs, mais de l'immigration dans ses propres banlieues, avec la symbolique des bulldozers d'Ivry, etc., de Vitry, ça a été désastreux. Et que donc, notre opposition est une opposition à l'Europe libérale, monétaire, au choix qui en a été fait, sur lequel Delors d'ailleurs s'est largement expliqué en reconnaissant que ce n'était pas la seule voie possible de construction européenne. On aurait pu mettre la culture ou poser des critères sociaux qui fassent que l'union monétaire soit le résultat d'un espace social construit et non pas la courroie de transmission d'une discipline libérale sur le social. Bon, donc c'était une opposition pour nous de ce point de vue-là, mais c'est une opposition à l'Europe libérale au nom d'un projet européen social, d'Europe des peuples et d'Europe sociale. Bon, et alors maintenant, je crois que le PC sur Amsterdam va mener mollement au Parlement, enfin quand le bouquin paraîtra, ça sera passé, mais son dernier baroud, mais que en fait la hâte c'est maintenant d'en être débarrassé pour ne pas avoir d'éléments de tension sur ce point-là dans la gauche plurielle, et puis dire bon, maintenant qu'on est dans l'euro, dans l'Europe, l'affaire est passée, jusqu'au bout on a dit qu'on n'était pas d'accord, mais finalement maintenant, avec les critères mis en avance par Jospin à l'époque, l'Italie, l'euro, etc., bon, en gros, on peut avoir une démarche d'amendement dans le cadre de la politique gouvernementale, au nom d'une Europe sociale qui, si on n'est pas plus précis, est un slogan commode, parce qu'il faut y donner un contenu. Bon, tout le monde va être pour l'Europe sociale, Chirac l'a dit hier, tout le monde sait que le dossier social est quasi vide, quoi qu'en prétende Delors. Bon, donc il faudra bien le garnir un petit peu. Maintenant, le problème, il est plus concret, c'est quelle politique fiscale, est-ce qu'il y a une politique de temps de travail européen, est-ce qu'il y a une politique de service public européen, etc. Mais je crois que le PC va passer finalement d'une opposition nationaliste à l'Europe dans les années 80 à un accompagnement ou un gauchissement de l'Europe telle qu'elle se fait. Bon, je crois que ma position, c'est une constante, c'est d'opposer à ça un projet d'États-Unis, États-Unis socialistes et démocratiques d'Europe, on peut trouver les formulations qu'on veut. Quand je dis États-Unis, ce n'est pas seulement une formule, c'est de dire, c'est l'idée que l'organisation d'une Europe des peuples qui crée des pouvoirs supranationaux mais qui n'abolissent pas l'instance nationale et les États, une espèce de double représentation, même pendant toute une période, paraît en tout cas faire exister démocratiquement. Enfin, je crois que ça a déjà été dit, qui est une manière aussi de prendre peut-être la. Ce serait une manière intelligente de traduire cette formule pour le moment assez indéfinie qui est la subsidiarité.
Mais pour revenir à la collusion dont je parlais entre, disons, droite de la social-démocratie et disons, un certain refus du républicanisme, est-ce que c'est pas quand même étrange aujourd'hui que. Tous ceux qui tiennent un discours républicain, qu'il soit de gauche ou de droite, enfin disons un discours fort, soient forcément taxés, soit de religieux de la République, soit d'archaïque, Geoffrin encore récemment dans l'édito qu'il vient de faire sur l'euro. Et régulièrement, comme si finalement il n'y aurait de république que de république nostalgique et de républicain que de républicain nostalgique. Comme s'il ne pouvait pas y avoir, disons, une politique qui serait celle du, par exemple, qui se rapprocherait de celle du CNR à la Libération, mais une véritable politique de rassemblement où moi où je pense où il y a effectivement beaucoup plus à faire qu'on le croit, c'est-à-dire y compris dans les alliances avec la droite, dans la mesure où je pense, comme Lucien Jaume l'a très très bien montré dans L'individu effacé, il y a un vrai libéralisme de droite, appelons-le un libéralisme de la conscience, mais aussi un libéralisme qui est quasiment a priori, c'est-à-dire qui se donne les moyens et les conditions de possibilité de la liberté, et qui s'oppose littéralement, disons, au néolibéralisme dominant, qui est essentiellement économistique, qui est uniquement le libéralisme de la main invisible du marché. Donc, alliance entre ce que pourrait être la suite de Benjamin Constant et de Tocqueville, le Tocqueville qui disait qu'un des malheurs de la démocratie, c'est qu'elle laissait choir l'expérience de filiation et la généalogie des hommes, enfin, elle laissait mourir les aïeux, quoi, enfin, je ne sais pas si c'est l'expression exacte, mais il employait le terme d'aïeux. Et qu'il y avait ce que forcément la démocratie de marché, avec sa logique marchande, entraînait ce que Castel appelle justement la désaffiliation, ou ce que Pierre Legendre reprend en disant nos démocraties ne sont pas à l'abri de la déraison, et donc toutes les formes d'explosion sociale, de violence urbaine, etc., sont l'expression de cette carence de l'État garant, de l'institution, des pôles symboliques, disons, nécessaires à la formation de l'individu. Tout ça pour dire que moi, je serais plutôt partisan d'une alliance intelligente de la droite authentiquement libérale et de la gauche authentiquement révolutionnaire, si je puis dire. Et tout ça, évidemment, à l'aune de ce qu'on pourrait appeler encore un rassemblement républicain. Qu'est-ce que tu en penses ?
Un rassemblement républicain à l'image du CNR, par exemple. Oui, oui. Je pense que je suis en désaccord, ça ne te surprendra pas. Non, en fait, donc, ce dont il est question, c'est de savoir si aujourd'hui, devant l'onde de choc de la mondialisation et sa logique de destruction des solidarités, de régression du principe d'égalité, voire de laïcité d'ailleurs aussi, derrière, il n'y a pas une redistribution des lignes de front et de fracture. La ligne principale de découpage et de répartition des alliances devenant le libéralisme ultra ou tempéré d'un côté et un programme CNR de salut public républicain de l'autre. Ben ça, je ne crois pas, justement. Je vois bien pourquoi la tentation existe. D'ailleurs, bon, il peut arriver, mais c'est pas par hasard que tu fais référence au CNR. C'est-à-dire que dans l'expérience du CNR, il y a un mouvement de résistance derrière, donc de résistance à l'occupant et de salut national. Alors, ce qui poserait par ailleurs le problème de ce qu'étaient les choix politiques à la Libération. C'est vraiment compliqué. Je ne dirais pas que c'est une affaire facile, il y a des alliés, il y a les Américains, etc. Mais en même temps, il y avait plusieurs lignes possibles à partir de la résistance, disons. Même s'il n'en était pas conscient, la ligne Guingouin, ce qui a été analysé par Madjarian dans son bouquin sur les éléments de double pouvoir à la résistance, et puis la reconstruction de l'État avec emblématiquement De Gaulle et le discours étatiste de Torres quand il a fallu le tenir. Non, alors aujourd'hui je ne crois pas, je crois que... Je ne dis pas que le principe républicain est épuisé. Enfin, ça c'est encore un point qu'il faudrait préciser. Je crois qu'il y a évidemment une vertu d'avenir dans l'idée républicaine, qui est que c'est un principe universalisable parce que c'est un principe de civisme. L'idée républicaine mérite d'être distinguée, à mon avis, de l'idée nationale, au sens où la République excède la nation parce que la République est universalisable. Les principes de la République peuvent être partagés. La nation est une définition, une cristallisation d'une communauté par rapport à un dehors. Et tout le problème d'ailleurs, c'est comment, au fur et à mesure de l'épreuve révolutionnaire, l'élan républicain, qui est un élan vers l'universel, se pétrifie et s'enferme dans les frontières sous l'effet de la guerre, et comment la République finit par s'identifier à la nation. Comment la citoyenneté, y compris d'un point de vue législatif, petit à petit, finit par s'identifier à la nationalité et pour finir avec le code de nationalité de la Troisième République. Donc là, il y a un mouvement d'osmose république-nation que l'histoire a fait, que l'histoire peut défaire. C'est-à-dire que je pense que la République a encore, en tout cas comme fil directeur d'une organisation politique, par sa teneur d'universalité, de l'avenir devant elle. Mais le problème, on ne peut pas non plus rebobiner le film historique, c'est que le fil bleu républicain, je dirais comme ça pour prendre une image, a croisé le fil rouge du conflit social. Et que aujourd'hui, autrement dit, on a une trame à deux fils. Et si on ne garde que le fil républicain, on découpe une possibilité d'alliance autour de certains principes incarné par la République, l'image et la symbolique républicaine, contredit par ailleurs par la réalité sociale, et du coup, c'est un peu le débat avec Régis Debray et les autres, c'est que si on lâche le fil social, la coquille de la République vidée de sa substance sociale devient une coquille autoritaire, disciplinaire, et la République comme principe d'ordre, donc avec ses figures de tutelle symbolique qui étaient égrenées dans la fameuse tribune là, des 8, oui, le père, le contremaître, etc. Oui, mais alors, j'ai lu là justement la lettre de Debray à sa fille, elle est beaucoup plus nuancée. Et à la limite, il y a un terrain de discussion qui est déjà plus tenable, mais parce qu'il remet quand même en selle justement cette idée de la République sociale. À mon avis, depuis 1848, on ne peut plus parler de la République tout court. Et si on parle de la République sociale, le clivage droite-gauche reste pertinent. Et on ne peut pas dire que, en gros, le clivage droite-gauche, dans la mesure où il exprime de manière déformée, transcrit sur le terrain parlementaire avec bien des entorses, etc. Mais dans la mesure où il renvoie finalement à cette référence qui pour moi est, j'appelle toujours un chat une structure de classe, Bon, bah, à partir de ce clivage-là reste structurant fondamentalement. Il ne peut pas être noyé tout simplement dans un front républicain d'union nationale type CNR face au libéralisme. Et d'ailleurs, finalement, il est tenace ce front, parce que un républicain, au-dessus de tout soupçon, le miraculeux échevènement, in fine, est quand même ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de gauche avec des socialistes. On pourrait dire que sur certaines questions, ils sont proches des libéraux, sur la question européenne par exemple, mais que le clivage droite-gauche reprend quand même ses droits. Alors, ou bien c'est purement un brouillage parlementaire insensé ou un héritage sectaire d'une époque révolue, ou bien derrière il y a une vraie contradiction à l'œuvre. À mon avis, disons qu'il y a le clivage structurant reste un clivage gauche-droite, parce que c'est celui qui renvoie fondamentalement au conflit social. Maintenant, sous le choc de la mondialisation, il y a effectivement à droite et à gauche, à l'intérieur de chacun de ces grands camps, il y a aujourd'hui des sous-dominantes et disons effectivement, alors je ne sais pas si je dirais ça républicain, mais enfin oui, enfin il y a en tout cas une culture du service public, de l'intérêt commun, de la laïcité à gauche qui n'est pas exclusive. Alors ceci dit, juste une précision, il me semble que je n'ai pas bien compris, c'est que tu disais la social-démocratie du côté du libéralisme, dans le cas français, enfin, c'est un petit peu un aparté, une parenthèse, c'est plus compliqué parce que le discours d'investiture de Jospin auquel Chevènement fait toujours référence du 19 juin 1997, c'est le pacte social et le pacte républicain, mais c'est pour 50% du Chevènement. Donc la social-démocratie française, elle est maastrichtienne, si on veut, etc. Mais elle est beaucoup plus dans la contradiction pour des raisons, je crois, d'héritage historique, etc., et puis de structure sociale et de l'État en France, qu'elle aurait, par exemple, encore des difficultés devant elle à faire le virage du type New Labour. Il y a une blairisation rampante. Mais enfin, de là à ce qu'elle soit consommée, les contradictions sont encore fortes.
Et la position de Pasqua, qui justement veut, je pense qu'il ne pourra pas, mais enfin, voulait récupérer en quelque sorte des voix du PC et de la gauche, et pas uniquement passer pour un... est-ce que c'est pas la fin du gaullisme là? Parce que finalement, le gaullisme ne risque-t-il pas de disparaître avec le séguinisme, enfin, ce qui fut le séguinisme?
Oui, mais il y a le gaullisme historique, il y a le Parti communiste historique, il y a deux phénomènes politiques. Je ne suis pas politologue, mais enfin, on voit bien qu'ils ont à voir avec un héritage très particulier en France. Justement, deux variantes de l'héritage jacobin, deux variantes de l'héritage de l'épopée nationale, dans ce qu'elle a eu... renouvelé par la résistance, mais toute la légende, non pas dorée, mais tricolore, de Valmy, etc., etc. Et que là, il n'y a pas une exception, puisque le terme est prêt à confusion, mais en tout cas, il y a une singularité de l'histoire politique française qui s'est caractérisée notamment par la place de ces deux piliers qui n'ont pas d'équivalent en Europe, pratiquement. Bon. Et les deux arrivent à bout de souffle. Hein, le Parti communiste doublement, parce que finalement ce qui lui tenait lieu de projet, il n'y a jamais eu de stratégie vraiment du Parti communiste, il a fait des coups, la seule stratégie étant de miser sur le fait que l'expansion et la force d'attraction du camp socialiste finiraient par le porter au sommet de l'État. Ouais. Mais ça a été ça, bon, le reste est toujours annexe dans le PC, donc ça, bon, le grand frère et le camp socialiste, il n'y a plus. Et puis, la source nationale, à partir du moment où se recompose l'espace politique européen et mondial, n'a plus la même vigueur, la même vitalité. Donc je crois que l'inspiration du PC est tarie dans ces deux sources. C'est pour ça que c'est un parti finissant et dont... qui a peu d'avenir, sinon de négocier finalement un partenariat, de devenir les radicaux de gauche du Parti Socialiste dans les années à venir.